Donc, je m'appelle Joe Lévy, je représente Nouvel Hub. On a nous aussi un groupe d'autosupport sur Marseille nouvellement créé. On intervient sur le travail de rue, sur le travail en squat, sur le festif urbain, sur l'ensemble des zones, des lieux et aux moments qui sont désignés par le public qu'on souhaite suivre. Donc essentiellement là, nous, ce sont des jeunes hommes, jeunes femmes de 16 à 25 ans qui vivent en squat, on va dire. Pour répondre quand même à notre cher professeur Lançon, oui, si tu prends des amphétamines, tu seras une bête sexuelle. J'en suis la preuve vivante, je ne suis pas le seul. Alors c'est quand même très important parce que on est quand même dans le mythe du surhomme. Tu as pas eu le temps de l'évoquer, le mythe développé par Nietzsche. Je t'ai pompé cette idée parce que je l'ai vue sur ton papier tout à l'heure, elle est excellente. Tu n'as pas eu le temps de la donner. Donc on est des animaux tout à fait singuliers, à la fois profondément animal. On est quand même programmé pour éjaculer en 2 minutes. Mais avec cette violente aspiration à la déité qui fait que justement on a cette capacité à faire une nuit d'amour entière et éventuellement avec l'aide des amphétamines. Mais ce n'est pas de l'incitation. Bon, c'était la parenthèse. Donc, à chaque clan, chaque tribu, ses représentations, ses produits, ses consommations, ses modes de consommation. En effet, chaque produit est très différent. On le disait tout à l'heure, chaque produit a induit des effets extrêmement différents biologiquement. Enfin, sur le corps. Et le mode de consommation lui-même influe sur la perception qu'on aura de ce produit. Hein, les trois grands classiques, gober, sniffer ou injecter, la courbe de vie du produit n'est pas la même. J'aurais voulu vous montrer une très belle courbe. En gros, je peux vous la mimer si vous voulez. Si on gobe, le produit va monter doucement et va durer un peu plus longtemps. Si on sniffe, il va monter un peu plus durement. Et la courbe de vie sera un peu plus courte. Si on injecte ou si on inhale aussi, ça va monter très vite et ça va redescendre assez vite aussi. Quand je suis monté à Paris la semaine dernière, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de fréquenter pour en apprendre davantage sur la galette. Moi, je croyais qu'on me parlait de biscuits, pas du tout la galette, donc c'est le crack qu'on achète là-bas à Paris, tout fait. C'est tout à fait ce craving d'aller chercher 20 euros une galette et de la consommer en 20 secondes en bas dans la voiture et d'aller en rechercher une autre immédiatement après. Donc c'est cette idée justement de craving qui n'est pas immédiatement, enfin, qui n'attache pas immédiatement au corps, mais qui, c'est vrai, réclame, enfin, qui est très vite réclamé. Donc le produit, la sensation est très vite réclamée. Donc ça monte très vite, ça redescend. Donc, aussi bien dans l'underground que dans ce qu'on appelle maintenant l'upperground, on va trouver des consommations. C'est vrai que les consommations qu'on nomme problématiques, celles qui nous intéressent davantage, on va les trouver davantage dans l'underground, mais même aux marges de tout ça, dans de ce qu'on appelle la population des précaires. Et notamment à Marseille, quand on connaît un peu la réalité, on est un vrai millefeuille de couches sociales qui s'entassent les unes sur les autres, qui communiquent peu entre eux. Heureusement qu'il y a des passeurs, et j'en fais partie. Donc c'est vrai que les problèmes les plus criants, on va les trouver justement dans l'usage des précaires, de la précarité. Pourquoi? Ben Florence Bouillon le disait, précarité, ça veut dire exploitation. Est-ce que vous avez déjà essayé de vivre dans un meublé entre 450 et 800 euros le mois? Quand on n'a pas de caution, on est obligé de passer par là. Ça veut dire exploitation, précarité et illégalité. Donc comment décrire une consommation en rue? C'est un cauchemar. Consommer entre deux voitures. Au troisième sous-sol d'un parking, consommé à la va-vite en 2 secondes. Là, on parlait d'injection problématique, parce qu'en plus, quand on parle de précarité, on parle aussi souvent d'injection. On parle d'injection aussi parce que l'injection, c'est justement le mode d'usage qui te permet de ressentir le maximum d'effet du produit, de potentialiser au maximum le produit. Donc là, il y a un vrai problème, c'est-à-dire que quand tu as très peu de revenus et quand tu arrives à te procurer un produit illicite ou alors tu fais un mésusage de produit, tu veux le sentir un maximum. C'est un peu aussi ça le problème. C'est-à-dire qu'en effet, l'injection va te permettre de potentialiser au maximum. Et l'injection de très mauvaise qualité, on le verra peut-être avec le film si on a le temps de le passer, les 2 minutes faites par Apoticom, c'est un outil, c'est un. L'injection, c'est un geste extrêmement technique. Vous êtes peut-être aussi bien, vous devez le savoir, vous qui faites. C'est des futurs médecins, non? D'accord. Donc, un geste hautement technique qui demande du temps, du calme, de la sérénité, qui demande un environnement maîtrisé. Hein. J'espère que vous passez tous le petit coup de chiffon et même davantage. Je le souhaite, en tout cas, c'est ce qui doit se passer aussi. La démonstration du film nous le montrera. La personne se met sur son canapé, devant sa table, il a tout le matériel nécessaire, son produit, c'est tout clean, il se lave les mains, enfin, c'est idéal, quoi. Oui, mais là, dans la rue, les mains sont sales, le produit, on le pile à la va-vite. Injecter de la ritaline, ça demande énormément de temps, en réalité. On le disait tout à l'heure, pour dégager le principe... Alors, ça se rapproche de l'amphétamine, la ritaline. En fait, c'est l'amphétamine du pauvre. Alors que déjà, l'amphétamine, et les speed freaks pourraient vous le décrire, c'est aussi un produit qui vient se substituer à la cocaïne. Aujourd'hui, dans les couches de population, qui souhaitent avoir un excitant extrêmement puissant à moindre coût. Et c'est vrai que l'amphétamine est le mieux placé. C'est vraiment le produit roi. Dans les scènes alternatives, qu'elles soient skinhead, punk, hardcore, on va très vite les retrouver. Donc, injecter de la ritaline demande beaucoup de filtration, demande du temps. Essayez de le faire entre deux voitures. Je vous dis, c'est un exercice complètement fou que je déconseille absolument. Mais c'est la réalité, ça se passe tous les jours. Et c'est la vérité aussi avec l'artane, c'est le problème aussi avec le Subutex. C'est le problème aussi de tout ce qui est double contrainte. Le Subutex, voilà un produit qui est non injectable. Bah oui. Dès le départ, quand on a demandé la construction, la fabrication et la réflexion sur le Subutex, on voulait qu'il ne soit pas injectable. Il y a marqué « le produit doit être difficilement injectable ». Ben voilà déjà un objectif qui a été pleinement rempli. Le Subutex est très difficilement injectable, dangereusement injectable. Il n'y a qu'à regarder l'état physique des personnes qui injectent du Subutex. Et comme on est dans une société complètement folle, on a un outil qui permet de filtrer Subutex, alors que ce produit n'est pas injectable. Oui, mais on a le filtre, il s'appelle le stérifiltre. Ce stérifiltre, on ne le trouve pas dans le kit. Le kit nous fournit deux seringues, deux cups, deux cotons pour la filtration, alors qu'il est avéré que le coton filtre très mal, et notamment le Subutex.
Vous pouvez regarder dans vos mallettes, on vous a distribué des kits d'injection pour que vous puissiez les voir, en fait.
On va comprendre ce que c'est la prévention des risques. Vous allez ouvrir vos sacs, tous. Parce que là, vous avez eu des discours jusqu'à ce matin. Maintenant, on va vers la pratique quelques minutes avant le repas. Vous inquiétez pas. Ah. Je te laisse la parole après. Excuse-moi.
Et le professeur Lançon doit nous amener les produits, je crois.
Non. Sortez vos boîtes. Déjà, vous voyez le temps qu'il faut pour sortir le matériel.
Distribution gratos.
Imaginez que vous ayez les flics au cul. Hein. Voilà. Et puis après, il faut venir demander une psychothérapie. Très bien. Tout le monde l'a sorti ? Tout le monde a son kit ? Non, je vois qu'il y en a qui ont du mal à sortir. Déjà, ceux qui ont du mal à sortir, je vous demande 3 minutes de réflexion sur qu'est-ce que ça déclenche en vous, cette affaire-là, parce que là, c'est le début. Et comme c'est compliqué de parler à quelqu'un qui fait ça toute la journée, tout le temps, et qui trouve que c'est important. Très bien, maintenant, vous l'ouvrez. Totalement. Et en même temps que vous l'ouvrez, vous remontez la manche de votre bras droit. Et voilà.
Gaucher,
et voilà ce que ça déclenche. La prévention des risques, c'est ça. C'est exactement ça. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un si je suis dans cet état psychologique tel que vous l'avez là tout de suite. Vous relevez votre manche, vous mettez le garrot et vous faites une injection sur vous. Et voilà. Là, vous comprenez forcément en vous ce qu'est la prévention des risques. Vous ne pouvez pas faire de prévention des risques si vous ne savez pas, non pas les faits, mais comment il faut faire. Les gens dans la rue, ils s'injectent comme vous, vous pensez qu'il faut injecter à l'envers. Et si on a affaire à des gens compétents, il faut leur montrer. Et l'éducation, ça montre qu'on ne sait faire que quand on l'a fait. Et si on veut faire l'éducation des risques, ce n'est pas la question de distribuer des seringues ou des stéribox, l'éducation des risques, c'est apprendre à se faire des injections propres. C'est là le fond de la question, apprendre à faire des injections propres autant de fois qu'il le faut.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que ça demande aussi
un environnement propice. Remontez vos manches et faites vos injections pendant qu'il fait l'exposé.
Non, mais pour rebondir sur ce que tu dis, c'est très important. Alors, c'est vrai que pour nous, c'est très facile. On est dans un environnement propice, on trouvera facilement un endroit où le faire proprement, de manière calme, sereine.
Non, c'est pas facile. Regarde, personne ne l'a fait.
Personne ne l'a fait, oui. Mais bon, en même temps, c'était une manière de bousculer les représentations. Donc, c'est vrai que l'image est impressionnante de se retrouver devant un kit d'injection. Celui que vous avez entre les mains, c'est le matériel qui provient des Distribox. Pour accéder à ce service fondamental de la réduction des risques, on verra en deux mots les 4 points fondamentaux de l'autosupport de la réduction des risques. Il faut avoir soit un jeton qu'on trouve chez un Carud ou un partenaire d'accès droit aux soins, soit il faut éventuellement ramener une seringue usagée. Mais au fait, ce n'est pas si évident que ça. Déjà, le matériel est souvent détérioré. Et en plus de ça, certaines personnes n'arrivent pas à le faire fonctionner. Essayez un jour, si vous voulez essayer, prenez une seringue et allez essayer de récupérer un nouveau matériel stérile dans un stérilebox avec une seringue dite usagée, même symboliquement. Et donc, vous verrez comme c'est...
La ville paye un prestataire pour maintenir comme
bien sûr.
En état.
Absolument. Et c'est un travail bien difficile, puisque en effet, c'est du matériel qui a beaucoup de mouvements. Au fait, dans la logique de continuité de soins, justement, on trouve le matériel stérile où ? Soit dans un cas rude qui aurait un PES, programme d'échange de seringues. On a parlé de points d'échange de savoir, mais bon, c'est vrai qu'on est encore aujourd'hui dans cette illusion, mais c'est plutôt un programme d'échange de seringues. On va la trouver aussi en pharmacie, d'où l'intérêt de travailler continuellement sur la continuité du service en pharmacie. On est en train de s'y pencher. Et puis, bien sûr, sur ces fameux automates. Alors, il faut dire aussi en deux mots, on est sur une logique de convergence des produits. Dans les années 80, aucun usager, c'est Nasser Tachougaf qui nous disait, on a été formé donc par Nasser Tachougaf, qui a été l'un des premiers travailleurs de rue français. Et on a eu cette chance inouïe, il nous disait, oui, mais nous, à l'époque, ceux qui consommaient de l'héroïne, ils étaient avec ceux qui consommaient de l'héroïne, ils ne se mélangeaient certainement pas avec ceux qui buvaient ou ceux qui avaient d'autres addictions. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. On est sur un mélange, sur une convergence, sur l'avènement de la polyconsommation. Un produit permettant de gérer un autre, de le potentialiser, de le maîtriser, de le relancer, de le descendre, etc. Sans passer par le stade souvent de l'initiation, on est en perte d'initiateurs, de repères, on est en perte d'anciens. Ça, c'est un gros problème aussi qu'on trouve aujourd'hui dans la consommation. Le travail de l'aller vers, le travail de rue dont on voulait parler tout à l'heure, qui est un outil, un instrument fondamental de l'autosupport, l'aller vers, c'est le travail de rue. Mais quand on parle de travail de rue, ce sont les travails de rue. C'est une approche qui peut être soit individuelle, soit une approche de groupe. On peut aller à la recherche d'une personne parce qu'on sait qu'elle a besoin d'une orientation particulière ou qu'elle a besoin d'être motivée pour telle démarche. Mais on peut faire une approche plus communautaire ou aller voir un groupe d'hommes, un groupe de femmes, un groupe de consommateurs. Les travails de rue, c'est aussi aller vers, c'est au-delà du travail de rue, c'est d'aller là où se trouvent les personnes. Chez lui, donc le mal logement, souvent, malheureusement, puisqu'on parle des précarités, les meublés, mais les squats. Ça, ce sont donc les travails d'aller vers, dont le travail de rue. Le travail de rue, puisque c'est le plus réputé, le plus connu. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment aller à la rencontre de ces précarités. Selon un temps défini, les gens ont identifié nos tournées. Ils savent quand nous trouver, ils savent quand on passe, à quel endroit on passe. C'est un peu les unités classiques du théâtre, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Les gens, les tournées sont adaptées continuellement. En fait, on crée des tournées en fonction des trajets de vie des personnes. Lieu de consommation, lieu d'échange, lieu de rencontre, lieu de passage, lieu de sociabilisation. Et on les adapte en fonction des réalités de la rue qui évoluent constamment. Quand on est en rue ou quand on est sur un événement ou quand on intervient sur une soirée, on a toujours évidemment un sac urbain d'une contenance assez importante, comme celui que j'ai amené là, qui permet d'avoir ce qu'on appelle un PES mobile pour agir immédiatement si quelqu'un a besoin d'avoir du matériel stérile. On le rappelle, le matériel est à usage unique. C'est très important. Et comme on est dans une démarche de réduction des risques, si il doit être réutilisé, il faut mieux réutiliser le sien. Donc il ne faut pas oublier que le petit matériel est l'un des vecteurs les plus fondamentaux, les plus importants de la transmission du VIH et du VHC. Et d'autant plus du VHC, puisque le VIH lui meurt très vite à l'air libre. Le VHC, lui, est un super virus qui survit très largement pendant une ou deux semaines. Donc là, le problème du petit matériel est posé, il a été traité. Il ne faut pas oublier tous les petits détails. Dans vos kits, vous verrez qu'il y a quelque chose qui est souvent oublié par les usagers eux-mêmes, c'est le tampon sec. Ben, ils ne payent pas de mine, c'est un tout petit carré de coton. On se demande souvent à quoi il sert. Ben, il sert à faire le point de pression après injection. Parce que le plus souvent, dans la rue, c'est un cauchemar. Mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un faire un point de pression avec un pouce sale ou un pouce ensanglanté? Ben, ça, c'est un vecteur VIH ou VHC immédiat. Sans compter des problèmes d'infection basiques qu'on peut trouver. Voilà. Donc, que devrais-je dire d'autre? Donc, l'autosupport, quand même, très important. L'autosupport, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à développer, mobiliser, susciter l'entraide, le partage, la transmission de pensée, la transmission de savoir entre les personnes. On n'est pas fait pour vivre seul. Dans la détresse et la précarité, les gens s'isolent. C'est un grand problème. On a vu la dernière fois, il y a 3 ans, on a eu une grande vague de fermeture de squats sur Marseille. Les squats se sont isolés, c'est-à-dire qu'il y a autant de squats qu'avant, à part que maintenant, ils sont isolés. Le problème, c'est que là, à l'intérieur de ces lieux de vie, se passent des actes dangereux, non maîtrisés, alors que ça pourrait être simplement des actes de sociabilisation, de plaisir, d'introspection et autres, dans un cadre adapté. On le verra avec le film, j'espère. Donc, les 4 points fondamentaux, l'accès au matériel stérile, donc on l'a dit, PESK RUD, pharmacie, Distribox, la création de relais, donc personnes relais, lieux relais, chez qui on pourrait trouver du matériel stérile ou qui va chercher du matériel pour son groupe. L'accès aux soins et aux droits, ça c'est un travail fondamental, c'est tout ce travail d'accompagnement et d'orientation que nous pouvons faire, réaliser auprès des personnes que nous rencontrons, en sachant toujours, en se référant à l'unité de temps, c'est que ça peut prendre un mois, un an, ou quelquefois beaucoup plus que ça. Mais il faut être toujours à l'affût de ce moment où on peut dynamiser une recherche. C'est un travail fondamental. Et bien sûr, donc, l'autosupport, c'est aussi la consolidation permanente de l'autosupport. C'est-à-dire, il faut chaque jour développer les groupes de parole, les groupes de discussion, ne pas oublier que les solutions se trouvent dans l'individu, dans chaque individu, mais aussi dans le groupe. C'est-à-dire que chaque individu a une part de cette vérité. La vérité, c'est surtout une somme de vérité, c'est une somme de connaissances de chaque personne. Et enfin, bien sûr, donc, on parle de proximité maîtrisée. Nous sommes un autosupport. Quand on dit ça, comprenne qui osera. En fait, on est des usagers. On est des usagers pour les usagers. Comme on l'a vu, il y a énormément d'usages, énormément de produits, énormément de façons d'être un usager. On est des usagers pour les usagers. Ça veut dire qu'on connaît, on a une partie des clés de compréhension de leur parcours de vie. Voilà. Que dire d'autre, puisque c'est un peu fini.
Oui, oui.
Voilà, donc
j'essaie d'aller au plus vite. J'aurais pas dit mieux, c'est fini.
Voilà.
On va pas passer le film, en fait. Ah. On va dire aux gens qu'on va le mettre sur en ligne.
Il
sur,
est visible,
sur le site.
À petit comme.
Voilà, donc nous, on voulait de toute façon vous passer une version qui est hyper courte, qui fait que 2 minutes. Il y a une version plus longue qui fait 17 minutes 32, donc il y a un temps réel avec plein d'informations. Donc vous la regarderez et vous pourrez faire vos petits exercices pratiques avec les Stérilebox distribués.
Et donc, de bien se souvenir l'environnement dans lequel est fait cette consommation. Là, on parle d'une personne qui va consommer chez lui tranquillement.
Le matériel nécessaire à une injection à moindre risque comporte une compresse d'alcool, une cuillère stérile Stericup, un filtre stérile et à usage unique Sterifilt, un tampon sec post-injection, une ampoule d'eau injectable, une seringue stérile, un produit écrasé finement limite les irritations locales et l'apparition d'abcès. Chaque goutte d'eau a toujours le même volume. Le piston décapuchonné est stérile et permet un mélange dans des conditions aseptiques. L'utilisation du Sterifilt élimine plus de 99% des particules solides. Toutes les drogues sont solubles dans l'eau. Si votre liquide est trouble, c'est qu'il contient des impuretés. Privilégiez toujours les bras. Nettoyez le site d'injection avec un tampon d'alcool ou de l'eau et du savon. Injectez dans le sens du retour veineux l'aiguille tournée vers le cœur, avec un angle le plus faible possible. Tirez le piston afin de vérifier que l'aiguille est dans la veine. Injectez lentement pour réduire les dommages veineux et les risques d'overdose. Retirez l'aiguille lentement afin d'éviter que la veine ne se bouche. Appliquez un tampon sec post-injection pour stopper le saignement. La destruction de la seringue après usage évite les piqûres accidentelles et permet une élimination du matériel dans de bonnes conditions.
Peut-être si, je sais pas si vous avez vraiment envie de manger tout de suite ou si peut-être il y a des questions urgentes. Sinon, Christophe Lançon proposait de répondre aux questions sur le forum, que vous postiez les sur notre site. Et ensuite, on n'aura vraiment pas le temps. 30 secondes.
Le piège dans lequel on est, c'était extrêmement intéressant que vous développiez tout cet aspect de territoire. Le piège dans lequel on est, c'est comment on peut faire cette éducation au risque entre deux voitures à toute allure avec le risque de se faire prendre. Et je crois que tout l'intérêt des débats qu'on a autour de la citoyenneté, autour de l'accompagnement, autour d'un certain nombre de lieux et de dispositifs, c'est justement pour rajouter cette touche-là qui rend possible ce travail-là. Sinon, on est dans du principe moral, on n'est plus dans de la mise en œuvre de la réduction des risques. Et donc, bravo et merci à la mairie de Marseille d'avoir été de celles qui, historiquement, tu l'as rappelé, et concrètement, encore aujourd'hui, continue. Je vous annonce, ce n'est pas un scoop, c'est une triste nouvelle, que le plan prison qui va être annoncé à 14h ne prévoira toujours pas l'échange de seringues dans les prisons, parce qu'on est toujours sur cette mythologie que plus on punira, plus on aidera. Tu as rappelé qu'au contraire, plus on soutient, plus on permet à la personne de s'aider elle-même. C'est ça qu'on essaye de faire comprendre, et c'est ça qu'il est très dur de faire comprendre.